Le journal est présenté par Sophie Delpont.
Bonjour à tous. 832 morts en Indonésie après le séisme et le tsunami. Le nombre des victimes ne cesse d'augmenter depuis hier. Nous irons dans la ville de Palu dès le début de ce journal, rejoindre notre envoyé spécial sur place. Puis direction Saint-Martin, où l'ouragan Irma avait dévasté l'île il y a un an. Où en est-on aujourd'hui des reconstructions? Emmanuel Macron a tenu sa promesse de revenir voir les habitants, mais les promesses de reconstruction, elles, n'ont pas été tenues, on l'entendra. Et puis nous irons en Macédoine. Le pays vote aujourd'hui pour un référendum et pour échanger de nom, mais les enjeux du scrutin vont bien au-delà, nous dira notre envoyé spécial à Skopje, Marie-Pierre Véraud. Nous partons tout de suite en Indonésie où on recense maintenant 832 morts alors que les équipes de secours fouillent les décombres. Après le séisme suivi d'un tsunami dans la nuit de vendredi à samedi, on apprend que 3 Français, un Sud-Coréen et un Malaisien sont portés disparus. En ce moment même, au Célèbre, Joël Brunner est l'envoyé spécial de France Culture dans la ville de Palu.
Nous pensons que des dizaines, voire des centaines de victimes n'ont pas encore été dégagées des décombres. Voilà pour les prévisions peu optimistes du porte-parole de l'Agence indonésienne de gestion des catastrophes. En effet, rien que pour la ville de Palu et ses 300 000 habitants, les dégâts considérables laissent présager le pire. L'effondrement du principal centre commercial de la ville, ou d'un grand hôtel dont presque toutes les 80 chambres étaient occupées, n'en sont qu'une illustration parmi d'autres. L'électricité est partiellement coupée dans la ville, l'aéroport a été fermé, ainsi que certains axes routiers qui mènent à Palu. Tandis que les autorités indiquent par ailleurs que plusieurs milliers de personnes ont été déployées, en particulier du personnel de l'armée comme de la police, et que plus de 17 000 habitants ont été évacués à ce stade. De nombreux blessés sont eux soignés en plein air, du fait que certains hôpitaux sont endommagés et d'autres dépassés par l'afflux des victimes. D'autre part, certaines zones sont encore aujourd'hui coupées du monde, comme Donggala, au nord de Palu. Des responsables locaux ont exprimé leur inquiétude de ne disposer jusqu'à présent d'aucune information sur cette zone, elle aussi sinistrée. De son côté, l'Union européenne a activé un satellite pour aider les autorités indonésiennes à cartographier la situation après ce séisme dont l'épicentre se situait à 78 km au nord de la ville de Palu. L'Indonésie, un archipel de 17 000 îles et îlots, se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, d'où la forte activité sismique que le pays expérimente régulièrement. Comme le mois dernier, lorsque la terre a tremblé à plusieurs reprises à Lombok, entraînant de nombreux dégâts et la mort de plus de 500 personnes.
Joël Brunner à Palu pour France Culture. À Saint-Martin, c'est un ouragan qui avait ravagé l'île dans les Antilles. Un an après le passage dévastateur d'Irma, Emmanuel Macron est venu honorer la promesse faite de revenir voir les habitants pour constater l'avancée de la reconstruction. L'occasion d'un échange hier, les pieds dans la boue, pour constater qu'on est très loin du compte, comme l'a reconnu le chef de l'État.
Je vais mettre la pression parce qu'on met beaucoup d'argent. L'État, depuis un an, a mis 500 millions d'euros pour accompagner la collectivité. C'est beaucoup.
Ça fait beaucoup.
Oui, c'est beaucoup. Et donc, je veux qu'on accélère les travaux. Par exemple, les écoles, elles n'ont pas réouvert toutes et pas suffisamment vite parce que les travaux n'ont pas été faits suffisamment vite et on a préféré faire des travaux ailleurs. C'est pas acceptable. Ensuite, en termes d'activité économique, c'est inacceptable ce qu'on voit là. Je vous le dis franchement. Vous le voyez, il y a des bailleurs sociaux ici, il y a des grands acteurs économiques. La Seine Samar, qui a ses bâtiments, qui loue 500, 600 euros par chambre, je viens de les voir. Depuis un an, les toits n'ont pas été faits. Ça, c'est pas acceptable. Or, ce sont des sociétés qui continuent de faire payer les loyers, et ce sont des sociétés qui ont beaucoup d'argent et qui en ont eu beaucoup par le passé. Je les verrai demain, et là, je leur dirai les choses telles que je les pense. C'est une île dans laquelle il y a eu trop de connivence, dans laquelle il y a eu trop d'entente, parfois même de la corruption. Il faut que ça cesse.
Emmanuel Macron au micro de Cyril Graziani. Les forces militaires des États-Unis, de la Turquie, de la France doivent quitter immédiatement la Syrie, a réclamé hier le chef de la diplomatie syrienne devant l'Assemblée annuelle des Nations Unies. Walid Al-Mualem a dénoncé une coalition internationale illégitime dirigée par les États-Unis déployée en Syrie sous prétexte de combattre le terrorisme, selon ses mots. Au Kurdistan irakien, les bureaux de vote ont ouvert depuis 2 heures maintenant. 3 millions d'électeurs sont attendus pour renouveler le parlement de cette région autonome du nord de l'Irak, un an après le référendum d'indépendance et le oui massif à la sécession vis-à-vis de Bagdad. Plus de précisions avec Omar Waman dans le journal de 10h sur France Culture. Jour de vote aussi en Macédoine, le pays qui deviendra peut-être la République de Macédoine du Nord. Au-delà du changement de nom pour tenter de mettre fin à une crise diplomatique avec la Grèce, Athènes souhaite garder ce nom uniquement pour sa propre province, une crise qui date de la fin de l'ex-Yougoslavie. Les enjeux sont multiples. Marie-Pierre Véraud, l'envoyée spéciale de France Culture à Skopje.
C'est une bizarrerie dans ce référendum. Les adversaires du changement de nom n'iront pas voter contre, mais ils vont bouder les urnes, bien plus efficace, estime-t-il, pour torpiller l'accord conclu avec la Grèce. Car si la participation n'atteint pas 50%, le référendum sera invalide. Et même s'il n'est que consultatif, ce serait un signal politique désastreux pour le Premier ministre Zaev, qui doit ensuite arracher l'accord indispensable de son Parlement. Cette crainte d'un boycott est alimentée par les accusations d'interférence du Kremlin, qui n'a pas renoncé à son influence dans la région. Nano Rougin est ancien ambassadeur de Macédoine auprès de l'OTAN.
Les Américains ont découvert qu'il y a l'argent russe qui finance les groupes qui sont anti-référendum. Tout d'un coup, sont formés plusieurs websites avec beaucoup de fake news sur la Macédoine, comme on va perdre l'identité, on va devenir les esclaves des Occidentaux, puis les masses migratoires qui vont annuler la Macédoine. Officiellement, les Russes se tiennent à l'écart, mais officieusement, les choses sont à peu près comme en Monténégro, parce que les Russes ont démontré qu'ils ne veulent pas que la Macédoine devienne membre de l'OTAN.
Autre complication, les listes électorales datent de 2002. Plusieurs dizaines de milliers de Macédoniens ont émigré depuis, ce qui rend encore plus difficile d'atteindre cette fameuse barre des 50%.
Marie-Pierre Véraud, envoyée spéciale de France Culture en Macédoine. Au Nicaragua, les forces de l'ordre ont violemment réprimé hier une manifestation dans la capitale, Managua. Des manifestants et des journalistes ont été frappés, des grenades assourdissantes utilisées. Le rassemblement réclamait le départ du président Daniel Ortega. Au Brésil, des dizaines de milliers de manifestantes ont défilé hier dans une quarantaine de villes pour dire non au candidat d'extrême droite Bolsonaro, favori pour l'élection présidentielle, dont le vote est prévu dans une semaine. Ces femmes espèrent freiner l'ascension du candidat en convainquant les indécis et surtout les indécises de voter contre lui. Anne Vignat a suivi le cortège à Rio.
La plus importante place de Rio de Janeiro n'était pas assez grande pour recevoir la manifestation contre Bolsonaro. Une même multitude s'est réunie dans les plus grandes villes du Brésil. Le mouvement, initié par les femmes sur les réseaux sociaux, a réussi son pari. Celui de réveiller les consciences, explique Yvonne, venue avec sa fille.
Je crois qu'on vient de se réveiller. C'est un mouvement contre la violence, contre le fascisme, le machisme, les préjugés, contre la régression, la barbarie. C'est tout cela que ce candidat représente pour moi.
Beaucoup d'étudiantes parmi les manifestantes et qui n'ont pas du tout la même vision que Bolsonaro sur l'histoire de leur pays.
Ces élections sont des élections un peu inédites. C'est un candidat machiste qui a déjà fait l'apologie du viol et qui défend la dictature militaire, qui a été une période très cruelle pour notre histoire. Il ne peut pas être le président de notre Brésil. Donc on est là pour dire, pas lui, jamais lui.
Eli non, pas lui est désormais le hashtag le plus partagé au Brésil à une semaine du premier tour de l'élection présidentielle. Les partisans de Jair Bolsonaro ont tenté de réagir en organisant aussi des rassemblements ce samedi. Mais leur nombre, comme leur dimension, était bien inférieur à ceux organisés par le mouvement des femmes unies contre Bolsonaro.
Reportage d'Anne Vignat pour France Culture. En France, un an après, que reste-t-il de MeToo, le mouvement mondial de libération de la parole des femmes? Le collectif Nous Toutes organisait hier un rassemblement place de la République à Paris contre les violences sexistes envers les femmes, toujours très nombreuses ces violences sexistes, Laure de Beaulieu.
Elles sont une vingtaine de femmes allongées par terre pendant que d'autres peignent leur silhouette en blanc sur le sol. Parmi elles, Mélanie, elle est bénévole au sein du collectif Nous Toutes.
On les encerclait de blanc pour symboliser leurs cadavres et surtout pour les rendre visibles parce qu'on a trop souvent tendance à les oublier une fois qu'elles sont décédées. Donc on veut dénoncer les crimes qu'elles subissent et aussi leur rendre hommage quelque part en faisant ça.
De l'avis général, le mouvement MeToo a permis de libérer la parole. Aujourd'hui, on parle plus facilement des violences faites aux femmes. Mais le chemin est encore long, selon Sophie, militante féministe de 26 ans.
Il y a une prise de conscience assez générale de ça. Et souvent, on nous renvoie la balle en disant « oui, mais les femmes aussi le font ». Mais bien sûr, tout le monde le fait. Tout le monde participe au système du patriarcat. À des degrés divers et variés. C'est tout un travail que de déconstruire et de comprendre en fait les choses qu'il ne faut pas faire pour éviter de perpétuer ce système qui continue à perpétuer justement les violences.
Et tout ça commence avant tout par l'éducation des enfants. C'est ce que pense Maxime. Il est venu en famille au rassemblement.
Mais il y a plein de lectures qui existent, de petits livres féministes qui existent, qui portent des valeurs, qui permettent d'apprendre à ma fille qui a 6 ans qu'elle peut jouer au foot dans la cour comme les petits garçons, qu'elle peut envisager de faire tous les métiers possibles. Donc je pense que ça commence aussi par là, par l'éducation bien évidemment.
Pour le moment, en 2018, une femme meurt toujours, tous les 3 jours, sous les coups de son conjoint.
Un reportage France Culture signé Laura Dulieu. Le temps, du soleil presque partout aujourd'hui, quelques nuages et des orages même cet après-midi entre Nîmes et Montpellier. Les températures sont comprises ce matin entre 11 et 24 degrés cet après-midi. On montera jusqu'à 25 degrés au bord de la Méditerranée.